بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. avant le mois de Ramadan on avait commencer le chapitre concernant Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. On avait expliqué un petit peu en introduction qui étaient ces créatures, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient, quelle était leur relation avec la race humaine, quelle était la proximité de leur, on va dire, de leur caractère génétique avec la race humaine. Et on avait déduit à la lumière des hadiths que c'était une population créée par Allah Azza wa Jal, mais une population qui avait fait des ravages un certain temps, à une certaine époque, et qu'Allah Azza wa Jal avait isolé du monde. Allah avait isolé ces populations, ces deux peuples, les Ya'juj et les Ma'juj, avaient été isolés du monde pour qu'ils ne puissent plus commettre les méfaits qu'ils le faisaient à une certaine époque. Mais à la fin des temps, Allah Azza wa Jal va envoyer de nouveau ces populations sur ce dunya pour semer le désordre exactement comme il le faisait avant et beaucoup plus. Et c'est là un des signes majeurs du Qiyama, c'est la sortie de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj. Et lorsqu'on expliquait en introduction que ce sont là des populations qui avaient été enfermées, emprisonnées, isolées du reste de l'humanité par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est que il y a eu un intermédiaire. Il y a eu une personne qui fut l'acteur principal pour protéger une grande nation, c'était l'empire chinois, hein, pour protéger cette nation des méfaits de Ya'juj et Ma'juj. Cet homme, c'est Dhulqarnayn. D'où l'importance de développer, de connaître qui était Dhulqarnayn avant de continuer l'histoire de Ya'juj et Ma'juj. On avait vu l'introduction sur la définition, sur la période où ils vont sortir, les méfaits qu'ils vont commettre. Maintenant, il est nécessaire de connaître qui est Dhulqarnayn, et ensuite, on pourra voir quels étaient les endroits parcourus par Dhulqarnayn, le Matla' al-Shams et le Maghrib al-Shams, ces versets qu'on lit régulièrement dans le Surah Kahf. Alors, très souvent, lorsqu'on parle de Dhulqarnayn, on fait référence à Alexandre le Grand. Alors, on avait expliqué un petit peu ça dans le dernier programme de le mois de, je pense, Sha'ban, juste avant le mois de Ramadan. En général, on met en ligne sur Internet, on n'a pas pu le faire, et Qaddarallah, Allah voulait ainsi que le dictaphone tombe en panne. Donc, tout ce qu'il y a dans la puce électronique est HS. Donc, les programmes qui n'ont pas été mis en ligne ne sont plus accessibles, malheureusement. Et c'est vraiment dommage. Enfin, Allah a voulu que les choses se passent ainsi, parce qu'on avait... On avait au moins 4 programmes sur la fin de Dajjal, et 3 programmes sur la fin de Dajjal, et 1 sur Gog et Magog. Et le dernier, c'était Dhulqarnayn. On n'a pas eu l'occasion de le mettre en ligne, on a reporté à chaque fois. Et apparemment, bon, il n'y a plus de possibilité de rattraper. Bon, c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur la personnalité de Dhulqarnayn. On disait que très souvent, on associe Dhulqarnayn à Alexandre le Grand. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que historiquement, il y a eu des historiens qui ont fait la relation de ces deux personnes parce que c'était deux grands conquérants? Ou alors c'était deux personnes qui ont beaucoup voyagé, chose qui n'était peut-être pas commun à une certaine époque. Effectivement, Alexandre le Grand a beaucoup voyagé et Dhulqarnayn a beaucoup voyagé. Mais Alexandre le Grand voyageait en tant que conquérant, alors que Dhulqarnayn, il a entrepris les voyages à un moment où il a dû s'exiler de son royaume. Il a connu des difficultés dans le pays, dans l'endroit où il régnait, par rapport à son retour vers l'unicité d'Allah Azza wa Jal, alors qu'il vivait dans un pays où on adorait les idoles. Et par rapport à sa spiritualité, à l'orientation qu'il a donnée à sa croyance, il a connu certaines difficultés et son pays était dépourvu d'une armée qui était une des plus fortes du monde à son époque. Et vu que l'armée de ce pays avait été entièrement détruite par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, Dhulqarnayn s'est retrouvé en position de faiblesse, dans une position où il n'a pas pu tenir les rênes de son pays et il n'a pas pu défendre son pays contre les envahisseurs. Ce qui fait qu'il fut obligé de quitter l'empire sur lequel il régnait. Et en plus, par rapport à cette faiblesse due à la destruction de son armée, il y a eu également les différentes personnes, les personnalités, les hommes politiques, les sorciers qui faisaient partie de son royaume, hein, qui ont fait, on va dire, une certaine une mutinerie, on pourrait dire comme ça, et les circonstances étaient tout à fait défavorables à cette personne, et il a dû quitter son royaume, et là il a entrepris des voyages, et il est parti dans différentes régions du monde pour propager le bien. Alors pour l'instant on n'a pas encore dit dans quel empire il régnait. Ce qu'on va expliquer, c'est le résultat d'une recherche qui a été faite par un savant qui s'appelle Hamdi ibn Hamza Abu Zayd, c'est un contemporain. Le livre qu'on a eu l'occasion peut-être de présenter, c'est un contemporain qui a écrit un livre vraiment extrêmement méticuleux, digne des plus grands ouvrages d'histoire. Bon, c'est parfois un peu difficile à lire parce que le quart du livre parle de l'histoire antique, hein, de certaines populations, de certains royaumes, parce qu'il a fait véritablement une recherche sur la personnalité, le personnage de Dhulqarnayn, et une recherche sur les lieux géographiques de Matri' al-Shamsi et Maghrib al-Shamsi. Il a été jusqu'à ces endroits pour visiter, et photos à l'appui prouvaient que c'était là les endroits qu'a visité Dhulqarnayn. Donc, pour revenir aux différentes hypothèses concernant l'identité de Dhulqarnayn, on avait dit tout d'abord que certains l'assimilent à Alexandre le Grand, et on va voir pourquoi est-ce que ce n'est pas Alexandre le Grand. Deuxième hypothèse, certains parlent d'un roi de Himyar au Yémen. D'autres savants, d'autres mu'arrikhin, historiens, ils disent que cet homme, Dhulqarnayn, aurait vécu à l'époque de Ibrahim alayhi salam. Et d'autres, là on est plus vers les gens du livre Al-Kitab, et ils sont d'avis, voilà, selon certains Al-Kitab, Dhulqarnayn, voilà, là on passe directement au surnom Dhulqarnayn, dit qu'il était l'empereur, il était l'empereur des Romains et des Perses, c'est-à-dire les plus grandes nations qui ont existé. Dhulqarnayn a eu ce surnom parce qu'à un moment donné il était roi tant des Romains que des Perses. Mais bon, toutes ces hypothèses ne sont pas correctes. Toutes ces hypothèses sont erronées. Et l'hypothèse qui revient le plus souvent, comme on l'avait dit, c'était que Dhulqarnayn serait Alexandre le Grand. Maintenant, à nous de démontrer, preuve à l'appui par le biais des versets de Sourate Kahf, que Dhulqarnayn et Alexandre le Grand sont deux personnages totalement différents, avec des objectifs différents et des missions qui ont été accomplies à des fins, à des finalités totalement opposées. Tout d'abord, lorsqu'on parle de Dhulqarnayn de Sourate Kahf, on parle d'un homme qui a iman en Allah. On parle de quelqu'un qui croit en Allah et quelqu'un qui agissait de manière extrêmement correcte, extrêmement respectueuse envers les gens. Et d'ailleurs, lors de ses voyages, lorsqu'il rencontrait des gens, il n'hésitait pas à sévir lorsque les personnes étaient dans l'égarement, et il n'hésitait pas à agir correctement avec les personnes qui étaient dans le droit chemin. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Il disait wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'an al-husna. Il avait en fait un discours digne de prophète. Il rappelait aux gens que celui qui a la foi et qui accomplit des bonnes actions aura des récompenses auprès d'un. Donc il allait de pays en pays pour prêcher le haqq, prêcher la vérité et ramener les gens vers Allah. Et lorsqu'il voyait des gens dans les difficultés, il n'hésitait pas à venir en aide à ces gens. Alors que Dhulqarnayn n'avait pas iman. Non, excusez-moi, alors que Alexandre le Grand, pardon, n'avait pas iman. Et lorsqu'on parle d'Alexandre le Grand, selon les recherches de certains savants, de certains historiens, il aurait vécu au 4e siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Alexandre le Grand. On parle d'Alexandre le Grand. Il aurait vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et quand on parle d'Alexandre le Grand, on parle de quel endroit du monde? La Macédoine. C'est près d'Italie. D'accord? Et donc à cette époque, si on dit 4 siècles avant Jésus-Christ, c'est qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait même pas la religion catholique chrétienne qui existait. C'est-à-dire que c'était une époque où les gens n'avaient pas de religion. Alors que Dhulqarnayn, c'était un homme qui avait foi en Allah et qui prêchait le tawhid. Et on va voir que c'est par rapport à son iman en Allah qu'il a dû fuir son pays et qu'il a connu ses difficultés et qu'il est allé propager la vérité dans différents endroits, dans différentes régions du monde. Également, lorsqu'on parle d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand était un conquérant. C'était un grand guerrier. Était un conquérant, et la seule chose qui l'intéressait, c'était les victoires, et c'était le butin, l'argent, les biens qu'il pouvait ramener. Et quand nous voyons également le parcours, on va dire géographique d'Alexandre le Grand, il s'est arrêté à la région du Punjab. Punjab, qui se trouve où ça? Ah non, hein? En Inde? Non, Punjab. Au Pakistan, bien sûr. Il s'est arrêté à la région du Punjab au Pakistan et à la frontière entre Pakistan et l'Afghanistan. Et il a combattu les gens de ce pays parce que, étant, comment on dit ça, quelqu'un de Macédoine, comment, macédonien ou macédonien, hein, en arabe des Macadouni, d'accord, bref, et étant originaire de ces régions du monde, c'était les ennemis, les Grecs étaient les grands ennemis des Perses, d'accord, donc c'était des ennemis héréditaires des Perses, et donc en combattant les on n'appelait pas encore le Pakistan et tout, bien sûr, on parlait de la région de l'Asie, etc., et donc ces populations étaient rattachées au royaume des Faris, au royaume des Perses. C'est pour ça qu'Alexandre le Grand était jusqu'à cette région et combattre ces populations pour conquérir ces terres. Donc, un conquérant, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire, dans l'histoire des civilisations. Alors que Dhulqarnayn, on ne le rappellera jamais assez, c'était un homme qui avait la foi en Allah et qui venait en aide aux gens. Et la plus grande preuve, c'est lorsqu'il a construit cette fameuse, j'allais dire muraille, non, ce fameux rempart, ce barrage pour isoler le peuple chinois, on va voir après que c'était le peuple chinois, d'accord, qui demandait de l'aide contre ces deux peuples, ces deux populations, les Gog et les Magog. Ah, également, on voit que lorsque cette population lui avait proposé de rétribution financière, il a dit « Qala ma makkanni fihi rabbi khair », ce qu'Allah m'a accordé, c'est encore mieux. En ce sens, traduction approximative, que j'ai pas besoin de l'argent. Fa'inuni biquwa, il dit, mais aidez-moi, apportez-moi votre aide, votre contribution. Et là, il a construit un barrage d'une solidité extraordinaire, qui dépasse tout ce qu'un être humain peut construire à toute époque, et que par l'ordre d'Allah, ce barrage a résisté, a fait en sorte que ces personnes, ces populations, aussi nombreux étaient-ils, aussi forts qu'ils sont, ils n'ont pas pu casser, ni ébrécher, ni franchir ce barrage uniquement par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et on avait vu la semaine d'avant, enfin j'allais dire la semaine dernière, même pas, il y a un mois et demi, quand on avait fait le dernier programme sur les signes de Qiyama, on avait vu que jour après jour, ils essaient de franchir le barrage. Mais lorsqu'il reste un tout petit morceau à franchir, ils disent que demain on va continuer, sans istithna, sans dire Inch'Allah. Et le lendemain, Allah Azza wa Jal fait en sorte, Allah ordonne que le barrage se reforme. Parce qu'Allah a décidé que ces gens-là ne franchiront pas cette frontière, tant que le moment ne sera pas venu. Et à la fin des temps, un personnage ou un individu parmi eux dira la formule magique Inch'Allah, et effectivement le lendemain, ils retrouveront le barrage comme ils l'avaient détruit presque entièrement la veille, et là ils vont franchir, et là ils vont déferler sur le dunya, sur ce monde, et ils vont causer des troubles, un chaos comme jamais l'humanité n'aura connu. On a vu également que lorsque Gog et Magog ils vont faire tout le fitna, ils vont détruire, ils vont brûler, ils vont, et ainsi de suite, après quand ils vont mourir, Allah Azza wa Jal va envoyer une pluie qui va, lorsqu'ils vont mourir, avec, qu'on va expliquer par la suite, Allah va envoyer un déluge qui va laver ce dunya de leur corps, de leur cadavre. Et puis il y aura une grande période de bénédiction, et ça nous rappelle un petit peu l'époque de Nuh alayhi salam, le déluge, où il y a beaucoup de pluie qui tombe, qui enlève tout ce qui est mauvais, et ensuite il y a une nouvelle ère qui commence, une nouvelle époque qui commence. Et effectivement, après Gog et Magog, c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle ère pour le dunya, où il n'y a plus de crise, il n'y a plus de famine, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de guerre, où il n'y aura que bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal, car ces gens seront sous le khilafat de Isa, al-Islam de Jésus lorsqu'il sera de retour. Alors, lorsqu'on parle maintenant, bon, on a des cartes, hein, on avait dit une fois qu'on allait, projeter les cartes, Inch'Allah, une petite vidéo projetée, on amènera une prochaine fois. Il y avait des cartes en arabe, et là, on a trouvé une carte en anglais, donc on est un petit peu plus proche quand même. Et donc, par rapport au lieu géographique, Alexandre le Grand n'a jamais entré en Chine. L'histoire de Chine ne mentionne pas la venue d'Alexandre le Grand. En fait, il s'est arrêté à la région du Punjab. Imaginez, enfin, là on aurait aimé avoir une carte. Imaginez, vous avez la Macédoine avec la Grèce. Pour aller vers l'Inde, vous allez à l'Est, d'accord? Et puis, il aurait dû continuer s'il voulait aller en Chine. Mais il s'est arrêté à cet endroit. Et donc, selon les historiens musulmans, très certainement, il ne savait même pas, il ne connaissait même pas l'existence de la Chine. Ce qui fait qu'Alexandre le Grand n'a jamais mis les pieds sur le territoire chinois. Alors que Dhulqarnayn, lui, il a été dans ces endroits. Sharqan wa gharba. Et on verra
que lorsqu'il est allé à l'est, à l'extrême, les endroits les plus retirés de la zone est, on va dire maintenant, ça dépend dans quel sens on se situe, il est arrivé jusqu'à l'océan Pacifique, jusqu'aux archipels des Maldives. Bon, très facile pour nous de dire, voilà, il est arrivé à tel endroit, on n'a pas la preuve, on n'a pas une signature, il n'a pas signé un livre d'or ou autre chose dans ces endroits, mais c'est des recherches par rapport au lever du soleil, par rapport à différents signes, on verra par la suite, qui caractérisent ces deux lieux géographiques opposés du Dunya. Les recherches de cet historien aboutissent vers ces régions du monde qu'il a été vers l'océan Pacifique, vers les archipels des îles Maldives. Et lorsqu'on parle de l'extrême ouest, on va voir qu'il a été jusqu'en Chine, et c'est à l'ouest, donc au niveau de la Chine, qu'il a trouvé donc le peuple chinois qui lui a demandé de l'aide contre les populations de Ya'juj ou Ma'juj. Et concernant Alexandre le Grand, il n'y a jamais eu une quelconque anecdote concernant une construction quelconque. C'était un conquérant, ça n'a jamais été quelqu'un qui a construit un édifice ou quelque chose, d'accord? Alors que des livres et des livres, des biographies ont été écrits sur ce grand conquérant. Mais donc avec ça, on est persuadé, il n'y a plus le moindre doute que Dhulqarnayn était quelqu'un de tout à fait différent. Alors que dans l'histoire de Chine, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé ces références, alors que dans l'histoire de Chine, on mentionne la venue d'une personne qui correspond à cette description. D'accord ? Maintenant qu'on parle de Chine, il ne faut pas non plus faire de raccourci en se disant que ce que Dhulqarnayn a construit, c'est la muraille de Chine. Aucun rapport. Strictement, aucun rapport par rapport à au descriptif, par rapport à la façon qu'Allah Azzawajal décrit ce mur, par rapport à la consistance, voilà, je cherchais le terme, la consistance, muraille de Chine, pour ceux qui ont été en Chine, je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion de voir, c'est de la pierre, muraille, c'est de la pierre, d'accord, alors que le radm, le barrage construit par Dhulqarnayn, est fait d'acier et de nuhas. Nuhas, c'est le cuivre. Donc c'est vraiment un édifice extrêmement solide, qu'on ne peut pas transpercer et qui ne se dégrade pas non plus avec le temps. Maintenant, concernant le surnom Dhulqarnayn, bon, on avait vu ça, il me semble que Dhulqarnayn, ce n'est pas son nom, c'est un surnom, d'accord? Et selon certains mouarikhin, selon certains savants, on appelait Dhulqarnayn Qarn. Ça peut être une corne, Qarn, ça peut être différentes choses. Et certains savants disent qu'on l'appelait Dhulqarnayn parce qu'il avait deux tresses. Qarn, deux tresses, deux couleurs. On ne dit pas les couleurs, mais il avait deux tresses, d'accord? Ce qui faisait qu'on l'appelait Dhulqarnayn par rapport à cette description physique. Certains sont d'avis qu'il avait le signe comme deux cornes de taureau, d'accord? Enfin, c'est même dessiné là dans le livre. Excusez-moi, ça rappelle un petit peu, voilà, des cornes de buffle, d'accord? Qui c'était le signe de Dhulqarnayn de son royaume. Chaque roi avait parfois un sceau ou alors quelque chose qui était représentatif. Donc, sur son navire, il y avait ce symbole, ce qui fait qu'on l'appelait Dhulqarnayn. Ce sont là des opinions, d'accord, des approches différentes. Et certains savants, et là ça se rapproche un peu plus, disent qu'on l'appelle Dhulqarnayn parce qu'il était dans les deux régions du monde les plus opposées, à l'extrême est et à l'extrême ouest. C'était une des personnes qui avait le plus voyagé, on pourrait dire, à cette époque. Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans les recherches, maintenant ça nous ramène vers un pays, vers une région du monde qu'on n'imaginait peut-être pas quand les recherches ont été faites par ce savant concernant Dhulqarnayn. Il a été cherché bien sûr dans les tafsirs différents du Coran, dans les différents commentaires du hadith en relation avec ce personnage, mais il a également fait des recherches dans différents ouvrages d'histoire, de civilisation, pour arriver à une description précise de la personnalité de Dhulqarnayn. Et là, ça nous ramène vers le royaume d'Égypte. Ça nous ramène vers le royaume d'Égypte, parce que Dhulqarnayn est originaire de cette région du monde. Alors là, c'est vraiment des pavés d'histoire, c'est pas des choses très amusantes à expliquer non plus. Alors, on parle de différents, vous savez qu'en Égypte, comment on appelait les rois d'Égypte, on appelait les pharaons. Mais pharaon, c'était un surnom, ça. C'était un titre. Tout comme pour les Romains, on disait César, d'accord? Mais à une certaine époque, il y a eu une lignée, voilà, j'ai cherché le chiffre en romain, c'est la 18e lignée, la 18e génération, on va dire, dynastie des pharaons. C'était dans cette dynastie-là, entre la 18e et la 19e, que va naître subhanallah, que va naître Dhulqarnayn. Dhulqarnayn qui va avoir ce surnom par la suite. Mais au départ, il a un nom égyptien. Et quand on dit égyptien, ce n'est pas un nom arabe. C'est un nom en langue, je ne sais pas comment ça s'appelait le langue à l'origine. C'était, c'est pas l'hiéroglyphe. L'hiéroglyphe, c'est les dessins. Hein, je vous arrête tout de suite. Dans leur langue maternelle, il avait un surnom, donc avec des consonances qu'on ne maîtrise peut-être pas. Mais c'est par la suite qu'il a eu ce surnom de Dhulqarnayn, certainement dans le Coran. Donc on est à une époque entre 1788 et 1500 avant Jésus-Christ. 1788 et 1500, c'est dans cette période qu'a régné, maintenant je n'ai pas l'équivalent en français, on appelle ça l'Empire des... En arabe, dit Al-Haksous. D'accord? Donc, c'est l'égyptien. En français, comment est-ce qu'il le francise? Je sais pas, il faut voir sur Wikipédia. Il y a certains noms, j'essaie de chercher. On a trouvé, Akhenaton, Akhenaton, etc., etc. Donc, ça, c'est des noms qu'on connaît, qui sont à peu près connus dans l'histoire d'Égypte. Il y a d'autres, c'est un peu moins connu. Donc, c'était une époque où a vécu également, on va dire une similitude avec l'époque, avec la période de Ibrahim alayhi salam et avec la période de Youssouf alayhi salam. Et par la suite, il y a eu le prophète donc Moussa alayhi salam. Et entre la fin de l'empire des Haksos en Égypte et la venue de Moussa alayhi salam, c'est là qu'on parle de la dynastie de la 18e et de la 19e dynastie régnante en Égypte. Et à cette époque, il y a eu une révolution unique dans l'histoire de l'Égypte. Je sais, c'est barbant. Je sais, ce n'est que de l'histoire, c'est pas très spirituel, mais au moins ça nous donnera un petit peu de culture générale pour connaître de quel homme on est en train de parler. Il y a eu donc, dans cette période, entre la chute de l'Empire des Haksos et Moussa alayhi salam, un homme qui va révolutionner l'Égypte parce qu'il va abandonner totalement l'adoration du soleil. Parce qu'avant, les Égyptiens, ils adoraient le soleil et principalement le rayon autour du soleil. On appelle ça l'astre ou le... Je sais pas, il y avait un autre terme concernant le soleil. Et lui, il va dire que non, on doit plutôt adorer le créateur, celui qui donne la force, la puissance à cet astre. Donc, il va aller à l'encontre des générations et des générations de personnes qui ont toujours adoré le soleil et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres divinités. Et cette personne... dans le langage égyptien, s'appelait, alors je l'ai en arabe, Amnophis. J'essaie de chercher sur Wikipédia Amnophis en essayant de franciser, je n'ai rien trouvé. Le seul terme qu'on retrouve à chaque fois, c'est Akhenaton, soit avec un wa ou Akhenatin avec un ya. Ça, il y a l'équivalent Akhenaton, donc, sans rapport avec le chanteur bien sûr, il y a l'équivalent en français. Mais les autres, je n'ai pas trouvé l'équivalent parce que c'est en arabe, et il faut faire peut-être un petit peu plus de recherche. Et donc c'était le seul empereur qui a... Comment Comment
Amenophis.
Ah ben merci.
Oui. Non, parce que...
Amenophis.
J'avais regardé un qui parlait de Akhenaton.
Akhenaton, oui. Bravo, donc si tu me donneras un lien, Inch'Allah. Parce que moi j'ai tapé rapidement Amenophis.
C'est un document que j'avais vu il y a à peu près 15 jours, donc il a bien existé.
Jazakallah khair. Donc, c'est une information importante. Bon, on avait 15-20 minutes pour faire les recherches. On n'est pas des grands chercheurs en histoire aussi. C'est pas ce qui nous passionne le plus. Mais voilà, on est à cette époque. Déjà, ça nous donne une idée. Il y a des fois, on se dit que est-ce que Dhulqarnayn c'était un arabe? Est-ce que c'était, je sais pas, de quelle tribu, de quelle région du monde? Non. C'était quelqu'un de la région d'Égypte. Et pour faire court, parce qu'on va pas s'éterniser non plus sur ce sujet, pour faire très court, parce qu'on avait au moins une dizaine de pages d'histoire, et c'est, comme je dis, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant non plus à citer, mais comme on s'est fait la promesse d'aller au plus profond de toutes les thématiques qu'on va aborder avec un maximum de preuves, on essaie quand même de les voir rapidement, mais on va plutôt résumer. Donc, le seul personne qui est invité vers l'adoration d'Allah, d'un Dieu unique. Cet homme a été approché, il a été approché par Moussa alayhi salam. Et voyez dans, si quelqu'un a déjà lu l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il y a eu le conflit, le premier conflit avec un membre de la famille, un copte, voilà, avec un copte, membre de la famille donc de la tribu de Firaoun, et que Moussa alayhi salam accidentellement avait repoussé la personne qui était en train de se battre avec un Israélite, et qu'il l'avait tué par mégarde. Il avait une force extraordinaire, il avait donc tué la personne sans avoir l'intention de donner la mort. Et donc, quelque temps après, il rencontre la même personne, le même copte en train de se battre une nouvelle fois. Le même israélite, pardon, qui fait partie de ses proches, de sa tribu, en train de se battre avec un autre copte. Et là, l'israélite a eu peur quand Moussa al-Sam s'était énervé, dit « Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué quelqu'un hier ?» Vous connaissez un peu l'histoire. Et c'est là que le copte qui était présent a entendu. Et personne avant ça ne savait que Moussa al-Sam était celui qui avait tué le copte la veille, alors que Pharaon avait envoyé son armée pour rechercher le coupable. D'accord ? Et donc là, ils ont rapporté la nouvelle, et ainsi de suite. Et en commentaire, donc, ce savant a dit que, à un moment donné, lorsque Pharaon a su que c'était Moussa, il a envoyé son armée pour capturer Moussa al-Sam. Parce que Pharaon a toujours eu, on va dire, quelque chose contre Moussa. Même qu'il a grandi dans son palais, il n'a jamais aimé Moussa. Il savait que c'était quelqu'un qui allait lui poser problème. C'est pour ça qu'il avait entrepris de tuer tous les garçons, tous les petits-enfants à son époque. Et donc là, il a voulu mettre le grappin sur Moussa, le faire exécuter, emprisonner, parce qu'il a tué un copte. Et à ce moment-là, il y a le verset qu'une personne, le verset ne me revient pas, une personne est venue et il a prévenu qu'attention, que Pharaon envoie son armée, il essaie de te tuer. Et c'est là que Moussa al-Salam a pris le chemin direct de Madian. Il a quitté l'Égypte pour aller vers Madian. Madian, qui était une région qui était à la frontière de l'Égypte, mais qui n'était pas sous le contrôle de Pharaon. Et à Madian, il y avait un grand prophète qui s'appelait Shu'aib. Ou il a Madian al-Rahum, Shu'aib, d'accord ? Et selon ce savant, soit c'était Dhulqarnayn en personne, il ne s'appelait pas comme ça, c'est le nom qu'on a dit, Amnéphis, c'est lui, soit directement, ou alors il a envoyé un émissaire prévenir Moussa al-Sam, attention, Pharaon essaie de te tuer. Et il y a une autre anecdote également, que lorsque Moussa al-Sam s'opposait à Pharaon, il y a un thème qui revient dans le Coran, « وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ » Alors là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Rajulun mu'min, pas besoin d'être un grand expert en arabe. Rajul, c'est un homme mu'min, un croyant, min al Firaun, parmi les proches du Firaun. Et al, c'est la famille. Il reprochait à Firaun et à ses acolytes, ses ministres, ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Au nom de quoi vous voulez tuer un homme juste parce qu'il dit que j'adore un Dieu, c'est Allah? Dire que est-ce que c'est une raison suffisante pour faire couler son sang? C'est-à-dire qu'il s'est toujours opposé à Pharaon. Excusez-moi, là on ne rentre plus dans le livre parce qu'on veut rapidement terminer, je vous le dis en résumé. Et donc, les savants disent que déjà, ça doit nous interpeller qu'au sein de la cour, le centre du royaume de Pharaon, il y a un homme qui n'accepte pas les décisions de Pharaon et qui s'oppose ouvertement à Pharaon devant les ministres, devant tout le monde, dans les mâchoiras, dans les assemblées. Il dit que vous n'avez pas le droit de faire ça. Et il s'opposait à chaque moment, chaque fois qu'il y avait l'occasion, il s'opposait contre Pharaon. Et les savants disent, mais comment cela se fait-il que Pharaon ne l'a jamais exécuté? Ou même Haman ou Qarun, qui étaient parmi les proches de Pharaon, qui étaient également de grands tyrans. Ils ne se sont jamais opposés à cette personne, ce croyant. Celui qui affirmait, qui montrait qu'il avait des affinités avec Moussa al-Salam. Et donc, le savant qui écrit le livre, il est d'avis que c'est comment il t'appelle ton camarade? Amenophis est le fils de Pharaon. Et le fils de... Et l'autre c'est comment? De Akhenaten, d'accord? Il est son fils. Et donc, dans d'autres versets, Allah Akbar, c'est ça le problème quand on zappe le livre, on n'a pas les versets sous les yeux, il y a un verset qui dit que Allah Azza wa Jal l'a protégé sans citer son nom. Il y a un pronom affixe de la troisième personne qui fait référence... Là, je n'ai pas le verset qui fait référence à cette personne que lorsque l'armée de Pharaon a été détruite, lui n'a pas été détruit. Il n'a pas subi le même châtiment. Pourquoi? Parce que lui, il avait foi en Allah et donc il a été protégé par Allah. Et donc les historiens, ils continuent, disent que donc, après la destruction totale, le verset, je ne reviens pas, j'avais trouvé une page du Jir une fois qui parlait d'Akhetanon et de tous ces gens-là, et donc, une fois que l'armée de Pharaon a été entièrement détruite et que Pharaon lui-même est mort, il est resté son fils. Son fils qui n'a pas été détruit, il a été épargné par Allah et donc il a repris le royaume de son père. peu à peu il a reconstruit, d'accord. Mais à cette époque, l'Égypte avait également, subhanallah, c'est subhanallah, l'histoire extraordinaire et qui rime avec l'histoire, les troubles de ces derniers jours. Dans le royaume de Pharaon, il y avait également la Syrie et la Palestine. La Syrie et la Palestine faisaient partie du royaume sur lequel régnait Pharaon. Et c'était des terres, Cham, c'était des terres extrêmement convoitées. Et notre nouveau roi, d'accord, Amenophis, n'avait pas, quand on voit, j'ai trouvé quelque chose en rapport avec lui, sur Wikipédia, on dit que c'était un roi extrêmement passif, inerte, incapable de prendre des décisions, et que c'est à cause de lui, il est la cause de la chute du royaume des pharaons, et telle chose, en commentaire, en explication, l'historien sur lequel on se bat, dit que ce n'était pas une question de faiblesse, ou une faiblesse dans la politique, ou dans la gestion des hommes, c'est qu'il n'avait plus d'armée. La totalité de l'armée avait été détruite, donc il n'avait plus les moyens de combattre pour résister. Donc, il y a le nom d'envahisseur, je n'ai plus sous les yeux, les envahisseurs, ils ont donc pris possession de la Syrie et de, qu'est-ce qu'on a dit, et de la Palestine. Et donc, il s'est retrouvé en position de faiblesse par rapport à son peuple, et en plus, il y a eu, c'était une grande tradition, les sorciers là-bas, les sorciers et les gens influents, ils ont essayé de le renverser, donc il a été contraint de quitter son royaume pour aller vers un autre endroit qui se trouve en Égypte, un autre endroit donc un peu à la frontière, et à partir de là, il a quitté complètement, il a abandonné complètement son trône, la royauté ou autre chose, la politique, et donc il s'est mis à voyager, et c'est durant ses voyages qu'il a fait la rencontre de plusieurs peuples, plusieurs populations, et c'est là qu'il va rencontrer le peuple chinois, et qui va faire la demande auprès de Dhulqarnayn. Ils ont reconnu que c'était un empereur et quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement bon. C'est là qu'ils vont lui demander, que voilà, ils vont lui expliquer la situation, les nuisances causées par les Gog et les Magog, et il va leur apporter son aide. Alors, en résumé, presque irrespectueux par rapport à l'histoire de cet homme, on a zappé des années, on a résumé en quelques minutes, mais ça nous permet de voir un petit peu, déjà avoir une idée que Campagne de Dhulqarnayn, déjà on situe quelle région du monde et quelle était la personnalité de cet homme. Si quelqu'un était capable de voyager, de construire et d'aider les gens, c'est parce que c'était un empereur à cette époque. Quand on parle de Pharaon, subhanallah, c'était vraiment un des rois les plus puissants. Donc il était l'héritier de ce trône, de ce royaume, de ses richesses, de tout ce que son père avait laissé. D'où l'importance, d'où le charisme de cet homme. Et lorsqu'il y a eu ces troubles dans son pays, il a dû quitter cet endroit et partir. Et donc quand on regarde même l'histoire d'Égypte, on parle de, parmi tout le royaume d'Égypte, ils ont toujours été des adorateurs d'idoles et du soleil, d'accord. Mais il y a eu une seule personne qui avait une spiritualité différente. Dans les livres d'histoire, on explique bien. Mais bien sûr, ils ne vont pas dire que cette personne croyait en un Dieu unique, en Allah. Non, parler d'une spiritualité déviante un petit peu par rapport à l'héritage culturel, non, à l'héritage culturel du royaume. Mais c'est exactement cette personne. Et selon les recherches de ce savant de Hamdi bin Hamza Abu Zayd, selon ses recherches, Dhulqarnayn serait cette personne. Et qui a donc vécu à une époque proche de Moussa alayhi salam. Et donc, longtemps après, il a fait ses voyages et il a continué sa mission jusqu'à construire ce barrage, ce rempart, pour protéger la région asiatique des Dhulqarnayn. Et ensuite, à la fin des temps, viendra une époque où ils vont sortir. Alors, ce qu'on va voir la prochaine fois, Inch'Allah, c'est un petit peu plus de description concernant Dhulqarnayn, l'extrême est et l'extrême point à l'ouest où il a rencontré, il a fait des voyages, pour avoir une idée de l'endroit où se trouve Ar-Radm. C'est pas un site touristique, c'est pas qu'on va visiter l'endroit où il a construit ce mur. Allah seul sait s'il est encore visible, ou alors il est recouvert de je ne sais pas quoi, de végétation ou autre chose. Mais pour avoir une idée, et on avait dit en introduction, dans les premières leçons, que le Radm a été construit donc à la limite de la Chine, dans les régions frontières entre Chine et Russie, la Caucase, à peu près dans ces endroits du monde. Et ça, on va revoir un petit peu dans 2 semaines, Inch'Allah. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de comprendre ces quelques paroles et renforce notre iman en Allah, et qu'on arrive à peu à peu à s'instruire, à connaître un petit peu plus les points qui sont un peu plus subtils de notre religion. Subhanallah, bihamdi, subhanakallah, bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil izzati.